France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir. La crise des gilets jaunes, eh bien, profite à Marine Le Pen et son Rassemblement National serait le grand gagnant aux élections européennes si le scrutin avait lieu ce dimanche. À la une des informés, ce nouveau sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info qui donne une République en marche battue, même si les gilets constituent leur propre liste. C'est dans ce contexte de grande incertitude que l'écologiste Yannick Jadot claque la porte au nez de Ségolène Royal qui rêve de fusion à gauche à ces élections européennes. Édouard Philippe, lui, est de retour sur le terrain pour faire le SAV des mesures Macron discutées ce soir au Sénat. Les fonctionnaires sont déçus, il n'y aura pas de hausse du point d'indice. Nous évoquerons le devoir de mémoire mis à mal pour refermer ces informés ce soir. L'enquête de l'IFOP avec la Fondation Jean Jaurès, selon laquelle un Français sur 10 dit n'avoir jamais entendu parler de la Shoah. Cela paraît incroyable, cette enquête qui fait s'interroger sur l'enseignement de cette période de l'histoire dans les écoles. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Virginie Lepetit.
Bonsoir.
Chef d'édition à Courrier International, notre partenaire des informés et notre autre partenaire également. Bonsoir Hervé Nathan.
Bonsoir.
Bienvenue, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. À mes côtés également, Jean-Christophe Gallien. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, président de JCGA Conseil. Et avec nous également, Jérémy Pelletier. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir.
Directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Nous évoquerons évidemment cette enquête avec vous à la fin des informés. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 21, le 27 de la TNT. Avantage donc, Marine Le Pen, la crise des gilets jaunes profite aujourd'hui à la présidente du Rassemblement National. Elle nuit à Emmanuel Macron et elle plombe littéralement Laurent Wauquiez, vous le verrez. Voici donc cet enseignement de ce sondage, le deuxième en deux jours pour France Info, signé Odoxa Dentsu Consulting, réalisé mercredi et jeudi par Internet auprès d'un millier de personnes. Le RN, le Rassemblement National, remporterait aujourd'hui les européennes dans tous les cas de figure, avec ou sans liste gilet jaune, comme nous l'explique Gaël Sliman, le cofondateur et président d'Odoxa.
C'est une question qui s'est souvent posée. Qui profite politiquement du crime gilet jaune? Eh ben, on a la réponse. Marine Le Pen, et très largement. Eh bien, en l'espace de 3 mois, le Rassemblement National de Marine Le Pen gagne 3 points et se situe maintenant largement en tête avec 24% des intentions de vote, nettement devant La République En Marche, puisque pour les européennes, dans notre intention de vote, on a une baisse de 2,5 points de la liste La République En Marche qui tombe à 19%. Donc, on voit que le match commence à bien se jouer, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un grand perdant qui n'est peut-être pas celui qu'on aurait pu imaginer, plus encore qu'Emmanuel Macron. Celui qui perd dans cette affaire, eh bien c'est Laurent Wauquiez, puisque la liste LR tombe symboliquement sous la barre des 10% à 8% d'intention de vote seulement, avec une baisse de 6 points par rapport à il y a 3 mois.
Virginie Lepetit, vous êtes surprise par ce résultat?
Alors, pas du tout. Sur la montée en puissance du FN, du Rassemblement National et sur la chute des Républicains, absolument pas, parce que de toute façon, c'est une période qui a cristallisé les opinions qui étaient déjà engagées sur ces chemins-là. Et Laurent Wauquiez a voulu récupérer, sauf que les gens sont pas idiots, ils préfèrent l'original à la copie, et voilà, donc toutes les manœuvres pour récupérer les gilets jaunes n'ont abouti qu'à ça, à la chute des Républicains.
Ouais, Hervé Nathan, vous voyez des connexions entre le mouvement qui s'est exprimé sur le terrain pendant un mois et qui continue de s'exprimer, et le Rassemblement National?
Ah, je trouve que, posé comme ça, je trouve que c'est d'une certaine manière, c'est une facilité. C'est-à-dire qu'on a tendance, d'ailleurs, à beaucoup de commentateurs, et je trouve que j'ai essayé d'expliquer pourquoi je suis pas d'accord, qui disent, bon, bah, c'est évident, c'était un mouvement fait, sinon d'extrême droite, fait pour l'extrême droite, portant l'extrême droite dans ses flancs, etc., et ça se voyait dès le début.
C'est un mouvement polymorphe, on l'a dit.
C'était un mouvement polymorphe, mais bon, il y a eu déjà, dès le début, il y a beaucoup de commentaires disant, attention, ça sent pas bon, pour parler vulgairement. Mais, moi, je m'inscris un peu en faux, c'est-à-dire qu'il y avait, évidemment, sur ce mouvement extrêmement puissant, extrêmement ancré dans la population française, qui avait, enfin, chez les citoyens qu'on n'entendait pas, il y avait évidemment un match pour celui qui arriverait à porter et à représenter après politiquement ce mécontentement social. Mais il ne faut pas confondre le mouvement lui-même et cette traduction politique dans les sondages, voire dans les élections dans 6 mois. Je pense qu'on ferait une erreur de perspective et d'analyse. Il se trouve que, d'après ce que j'ai compris, le parti qui a fait à la fois l'effort de pas trop en faire et celui d'envoyer ses militants sur les barrages, c'est le Rassemblement National. Celui qui est, alors on pensait qu'il y avait un autre parti qui aurait pu. Moi, je trouve que le sondage, le grand perdant, c'est plutôt la France Insoumise.
La France Insoumise. Oui. On rappelle le score. Ouais. Les Insoumis reculent d'un point à 11,5% au profit du Parti Socialiste. On le verra dans un instant.
Voilà. Alors ça, je ne sais pas pourquoi ça passe d'un Parti Socialiste, mais c'est secondaire dans ce que je voulais dire. On pensait que la France Insoumise était bien placée pour
vous dire aussi. Que les élus se sont trop exposés.
Et d'une certaine manière, ils en ont peut-être fait trop. Voilà. Et en même temps, on sait que beaucoup des militants de la France Insoumise n'ont pas voulu y aller.
Jean-Christophe
Pourquoi Parce qu'ils pensaient justement qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait propres à l'intérieur, sur les barrages.
Jean-Christophe Gallien, vous partagez le point de vue d'Hervé Nathan. Attention, prudence, pas d'amalgame.
Pour le coup, je suis 10 fois d'accord et je pense que même 100 fois, parce que quand on regarde les mouvements, on l'a dit et répété pendant cette période, qui se sont déroulés depuis 10 ans partout, c'est très composite. On ne peut pas dire qu'il y ait une domination par un bord politique. Par contre, ce qui est très vrai, et ce que vous avez dit est très juste, c'est l'approche politique de ce mouvement a été mieux géré, pour le coup, si on peut le dire comme ça, par l'Assemblée nationale que par les autres mouvements. On ne peut pas mettre La République En Marche là-dedans, qui, je trouve d'ailleurs, résiste plutôt pas si mal par rapport à ce qui est comprimé sur Emmanuel Macron depuis le début. Donc, pour moi, la grande surprise, c'est l'effondrement de Laurent Wauquiez, qui se voulait le héros de la classe moyenne délaissée, des territoires abandonnés, et qui, là, a été dans un échec total. Mais on l'a vu, on l'a entendu, il s'est planté dans cette démarche, et du coup, il a planté son parti. Maintenant, pour revenir sur le Rassemblement National, c'est quand même une élection, les européennes, qui sont toujours très positives. Plutôt facile, c'est la bonne élection, surtout avec une circonscription nationale cette fois-ci, entièrement à la proportionnelle. On ne peut pas imaginer que ce soit une mauvaise élection. Voilà.
Allez, Jérémy Pelletier, vous allez avoir la parole dans un instant, si vous le permettez. Tout d'abord, 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
À quoi faut-il s'attendre demain pour ce nouveau samedi de mobilisation? Les Gilets jaunes prévoient des actions, mais l'ampleur reste imprévisible. Le château de Versailles, lui, sera fermé en raison d'appels à manifester dans la ville. Moins de 4000 Gilets jaunes se sont mobilisés aujourd'hui dans toute la France. Selon le ministère de l'Intérieur, près de 200 ronds-points sont toujours occupés. Dans le Tarn, une médecin anesthésiste mise en examen pour meurtre. Elle est soupçonnée d'avoir euthanasié une patiente octogénaire. C'était à l'hôpital de Lavore. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. L'infirmière qui a injecté la dose mortelle est sous le statut de témoin assisté. La métropole de Bordeaux réclame le remboursement des aides perçues par Ford pour son site de Blanquefort, une usine que le constructeur américain compte fermer. Les élus de Bordeaux demandent le remboursement de près de 2 millions d'euros et ils qualifient d'insulte le comportement de Ford. Et puis le ski, l'américaine Michaela Schifrin remporte le slalom géant de Courchevel, 6e succès en 10 courses de Coupe du Monde. La française Tessa Worlel se hisse sur la 3e marche du podium.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors pour ceux qui nous écoutent, Jérémy Pelletier de l'Institut Jean Jaurès est entouré de tableaux, de notes, noircies des pages entières. Jérémy, dernier renseignement de cette enquête Odoxa Dentsu Consulting, une liste gilets jaunes appelée de ses voeux d'ailleurs par une majorité de Français, comme on l'a vu lors de notre enquête d'hier, eh bien totaliserait, je dirais, seulement 8% des suffrages. Elle prend 3 points au Rassemblement National et un seul aux Insoumis, le RN qui resterait toujours en tête. Ça ne mord pas, ça ne prend pas plus que ça.
Pour le moment, c'est de la politique fiction.
Totalement. Vous assumons. Parce que la question est posée, sur la constitution d'une liste ou pas.
Oui, bien sûr. Non, mais aujourd'hui, vous avez en France à peu près entre 18, 19, 20% de Français qui se disent proches ou qui se disent gilets jaunes. Donc, voilà, première fois que c'est testé, 8%. Évidemment, ça peut sembler un peu fou, car émergence d'un parti qui n'est pas d'ailleurs un parti pour le moment totalement inconnu, et donc 8% pour le moment sur une intention de vote.
Mais ce qui est beaucoup en fait.
Ce qui est beaucoup.
En fait, c'est beaucoup.
Ce qui est frappant dans cette enquête, je vais revenir sur différentes choses qui ont été dites tout à l'heure. Vous parliez des connexions finalement entre les Gilets jaunes et le Rassemblement national pour expliquer le fait qu'aujourd'hui, effectivement, le Rassemblement national est crédité de 24% d'intention de vote. Hervé Nathan disait, il faut faire très attention, aucune connexion. Ce qui est certain, malgré tout, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes a été le révélateur un peu fluorescent des fractures françaises dans ce pays, que ça s'est structuré autour de la question de la voiture, faut pas l'oublier. D'ailleurs, dans les mesures d'urgence préconisées par le gouvernement, il y a évidemment des mesures qui concernent la voiture. Ce mouvement a débuté au moment de la baisse sur les routes secondaires, vous savez, du passage des 90 aux 80... kilomètres-heure sur les routes secondaires. Et ce qui est certain, c'est que cette France-là, dans les enquêtes, quand vous êtes à 40, 50 kilomètres d'une grande ville, d'une grande métropole, c'est évidemment une France qui va voter davantage pour le Front National et pour Marine Le Pen. D'ailleurs, dans les enquêtes sur est-ce que vous vous sentez ou pas gilet jaune, que vous soyez un ouvrier dans une grande métropole ou à 40, 50 kilomètres d'une ville, vous passez de 1 à 2 dans la proportion à se sentir gilet jaune.
Donc ça, c'est le premier enseignement. Donc vous y voyez quand même quelques petites
connexions.
Mais
évidemment que c'est une France, c'est une partie de la France, de fait, territorialement et de dépendance à la voiture, qui vote pour le Front National. Le deuxième enseignement, évidemment, c'est l'effondrement dû à sa stratégie et dû à son zigzag permanent de Laurent Wauquiez. Je rappelle juste, si vous prenez les dernières élections européennes 2014, alors le Front National, 24%, est assez stable, finalement. Par contre, quand vous regardiez l'UMP, 20% en 2014, là, effectivement, il y a un effondrement total quand il passe à 8%. Et le troisième enseignement, quand même, c'est que si, aujourd'hui, vous additionnez, effectivement, la liste du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, vous atteignez entre 12 et 13,5%. Ça dépend s'il y a une liste, effectivement, Gilets jaunes. C'est 13%, vrai. Ce qui était le score du Parti Socialiste aux dernières élections européennes.
Aussi, c'est de la politique fiction.
Hervé Nathan, oui, vous avez raison de dire ça. Parce qu'il ne s'additionne pas, justement, ce sondage éclaire de manière particulière à la fin de non-recevoir des écologistes. Yannick Jadot ferme, pour ne pas dire claque la porte au nez de Ségolène Royal en vue de ces élections européennes. Écoutez donc Yannick Jadot, c'était sur BFM TV ce matin. Pour lui, c'est clairement non.
Je lui réponds non parce que moi, ce que j'entends, c'est trouvons une solution pour sauver le PS. Faisons survivre le Parti Socialiste. Et moi, j'ai pas envie que mes enfants, ils me disent « T'as préféré sauver le Parti Socialiste que de sauver le climat ». J'ai pas envie de rentrer dans ces magouilles. Il faut des écologistes pour porter l'écologie.
Alors vous
et
vous
moi,
disiez...
j'ai pas envie de faire
vous
de la tambouille politicienne. J'ai envie, y compris de tous ces électeurs déçus de la gauche, j'ai envie de leur dire « C'est pas la nostalgie qui nous fera projeter un avenir bienveillant ».
Virginie Lepetit, elle est quand même un petit peu écologiste, hein, malgré tout, Ségolène Royal.
Elle a été ministre, de l'écologie, et
elle a porté
des mesures, effectivement, qui étaient des mesures écologistes. Mais
ils peuvent plus s'entendre, ces deux-là.
C'est surtout, là, pour le coup, c'est vraiment politicien, tout ça. C'est-à-dire que on n'est pas sur, je pense, la défense d'idéaux, etc. On est sur des manœuvres, d'un côté comme de l'autre, qui consistent effectivement à essayer soit de rassembler, soit d'être dans la posture de la pureté. Bon, ben voilà. Mais on verra d'ici. Enfin, c'est loin encore,
c'est pas demain matin, mais les choses se dessinent assez rapidement. Jean-Christophe Gallien, tout à l'heure, Jérémy Pelletier rappelait les scores. Si on faisait l'addition des deux forces, écologie, socialiste, ce serait un joli résultat. Ce n'est plus possible aujourd'hui, ça.
Je pense qu'il y a surtout, c'est même au-delà du c'est, on est dans le parcours personnel, quoi. Il y a des zombies du dégagisme qui tentent de revenir des catacombes politiques. On a vu Nicolas Sarkozy qui a tenté de faire des petites cartes postales comme il faisait jusqu'à présent. François Hollande qui ne cesse de répéter qu'il est disponible, sans le dire tout à fait vraiment.
Pour vous, c'est Zombieland, ça. Pour
exactement.
Vous.
Je pense que là, pour le coup, s'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé l'année dernière, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, on a liquidé, en tout cas, Emmanuel Macron et son approche de, en tout cas, électorale et par la suite, a carrément fait dévaster ce paysage-là politique. Donc, ça n'empêche pas qu'il y ait des volontés individuelles, personnelles, dans un contexte où le PS, effectivement, cherche une possibilité de sortir, que ça peut connecter avec d'autres, mais on peut comprendre que d'autres qui sont actifs mais tout en restant quand même dans une cabine téléphonique, comme on disait il y a quelques années, ont envie de protéger leur petit précaré au moment où, encore une fois, se joue leur élection, c'est l'élection européenne, surtout dans une circonscription nationale, qui est extrêmement politique là-dessus. Donc après, moi, je voudrais juste dire sur le 8%, c'est déjà un exploit. Il faut se rappeler que Podemos, sur une partie qui n'était pas pour le coup
vous
à droite.
D'une liste supposément en gilet jaune.
Et parce que Podemos, qui est né il y a 5 ans, il faut se rappeler, 4 mois avant l'élection européenne, 4 mois seulement sur une base, sur une partie simplement des indignés espagnols qui étaient effectivement celles qui étaient les plus à gauche, sur avec un lien avec un mouvement d'extrême gauche qui était un mouvement madrilène, pour exact, qui était parti d'une université, ils ont fait 10%. Donc on peut avoir cette politique fiction, et c'est moins fictionnel à mon avis, pour revenir à la fiction, que cette association contre nature aujourd'hui des socialistes et des écologistes.
Hervé Nathan, sur ce mariage semble-t-il impossible par-delà le passé, pour ne pas dire le passé, entre les deux familles. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des convergences, sur, notamment sur les questions de l'écologie, le dérèglement climatique, sur des questions d'immigration européenne ? Ça pourrait s'entendre, tout ça, quand même.
Bon, bien sûr qu'il peut y avoir des convergences. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les écologistes historiques, et Yannick Jadot en est un, c'est un ancien cadre de Greenpeace, hein, donc c'est quelqu'un qui est vraiment, pour qui l'écologie est un combat... de jeunesse, enfin voilà, c'est un engagement très fort. On a toujours fait le procès à Ségolène Royal d'être une écologiste d'opportunité, voilà, et de ne jamais aller au combat lorsqu'il faut y aller. Exemple, par exemple, ils ont beaucoup reproché
la suppression des portiques d'écotaxes,
par exemple, mais sur beaucoup d'autres, l'huile de palme, enfin bon, etc. Il y en a plein. Ils ont des dossiers comme ça, c'est empilé sur la table. Pour faire le procès de Ségolène Royal en ministre inconséquente. Et donc, déjà, notamment, ils ont donné à Nicolas Hulot la liste de tous les chausse-trappes que Ségolène Royal avait laissées dans son ministère au moment où il est rentré
en 2017.
Donc, voilà, il y a déjà ça. Et puis bon, d'une certaine manière, c'est le vieux monde, quoi. Je comprends aussi.
Jérémy Pelletier, le PS peut retrouver du lustre, malgré tout, à la faveur de ce scrutin ou pas?
Je ne sais pas s'il peut, malheureusement, retrouver du lustre. Je trouve que quand Yannick Jadot dit j'ai compris qu'il faut absolument sauver le PS, enfin, très sincèrement, la question, je crois qu'elle est pas là. Enfin, aujourd'hui, dans le contexte politique dans lequel on est, alors on parle de la France, mais prenez d'autres pays européens. Très sincèrement, je pense que la question, elle est pas là. La question, elle est pas de sauver le PS. La question, elle est d'essayer de rassembler, je crois, hein, en tout cas, un maximum de pro-européens, un maximum de groupes, d'individus, en tout cas, de forces politiques sociaux-démocrates qui peuvent défendre une vision de l'Europe. Très sincèrement, je pense vraiment que la question, elle est pas là. Quand vous reprenez vraiment les résultats de votre sondage, 24% Rassemblement National, 11,5% France Insoumise, vous rajoutez score qui est hyper important, 7% Nicolas Dupont-Aignan.
Oui.
Vous pensez que les sociodémocrates, vous pensez que les pro-européens vont peser énormément là-dessus et très sincèrement, ça ne concerne pas uniquement la France. C'est pas comme si on était dans un moment où tout un tas de pays sont très en phase avec les principes démocratiques, les principes de la démocratie libérale. Vous savez, cet intellectuel qui s'appelle Yasha Mung qui a parlé de l'émergence des démocraties illibérales. Ben, très bien, continuons à se mettre dans nos petites chapelles. Ne voulons pas prendre la responsabilité du moment politique de notre démocratie. Et puis, il va nous arriver ce qui arrive à l'Italie.
Voilà, message de la Fondation Jean Jaurès, 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Les mesures exceptionnelles du gouvernement pour calmer la crise des gilets jaunes sont désormais adoptées. Les sénateurs viennent de valider le projet de loi à main levée après 4 heures de débat. Prime exceptionnelle, heures sub défiscalisées, pas de hausse de CSG pour une partie des retraités. Les 4 articles avaient été approuvés hier par les députés. Francis Holm compte se pourvoir en cassation. C'est ce qu'indique son avocate après la condamnation en appel du tueur en série. Francis Holm a été reconnu coupable du meurtre de 2 garçons de 8 ans à Montigny-les-Metz. C'était en 1986, un crime pour lequel Patrick Dils avait passé à tort 15 ans en prison. Et il n'avait jamais fait aussi chaud en France métropolitaine depuis le début des mesures météo en 1900. L'année 2018 est donc un record, indique aujourd'hui Météo France. La moyenne des températures avoisine les 14 degrés, soit 1,4 degrés au-dessus de la moyenne de référence. Et puis les vols ont repris à l'aéroport londonien de Gatwick après de nouvelles perturbations. Le site a été fermé après l'apparition d'un drone aux abords des pistes. Les vols avaient déjà été suspendus pendant près de 36 heures, toujours en raison de la présence d'engins volants non identifiés.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Voilà donc, Boris Allier le disait à l'instant, le Sénat comme l'Assemblée nationale eh bien, a voté les fameux 4 articles du projet de loi Macron. Il y a l'urgence, il y a aussi, ça rime, les vacances. Il se trouve que hier, à l'Assemblée nationale, eh bien, les socialistes se sont abstenus sur le texte. Le premier secrétaire, Olivier Faure, s'en est expliqué sur France Info.
Pourquoi les socialistes ne les ont pas votées cette nuit, ces mesures ?
Mais tout simplement parce que, pour l'instant, ces mesures, elles sont financées par les Français eux-mêmes. C'est un tour de passe-passe budgétaire. Et donc, nous ne voulions pas cautionner. Les mesures, elles sont évidemment plutôt favorables à ceux qui vont en bénéficier. Mais c'est à la fois insuffisant et surtout financé par, en fait, soit la dette, donc les impôts de demain, soit par une redistribution entre la classe moyenne et la classe populaire. Donc, ça n'est pas la bonne solution.
Voilà donc Olivier Faure avec Marc Fauvel, Jean-Christophe Gallien. Est-ce que dans des moments pareils, il faut continuer à faire de la politique ou aller, il faut voter ?
La politique, c'est aussi ça. C'est-à-dire c'est aussi quand même dire ce pourquoi on est là, si on est d'accord, si on n'est pas d'accord. C'est parce qu'il y a la friction en démocratie, même quand il y a des mouvements populaires du type Gilets jaunes, et c'est très nouveau, très inédit, n'empêche pas effectivement d'avoir une position politique qui soit différente de celle du gouvernement, par exemple. Je crois que là, il n'y a pas de... Après, le contexte est celui aussi de trouver une position, vraiment une position. Là, c'est on est un peu surpris parce que on s'attendait à des socialistes plus malléables, moins surveillants ce qui est en train de se passer. Et finalement, il y a peut-être là, pour le coup, un aspect politique intéressant. Autant le retour de Ségolène Royal me paraît pas une très bonne nouvelle, autant là, en l'occurrence, on a peut-être une démarche qui dit, on n'est pas d'accord, et on le dit de cette manière-là,
sans bloquer le vote. Virginie Lepetit, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, évoque un tour de passe-passe budgétaire. En gros, c'est la dette qui finance les fameux 10 milliards, c'est ça l'idée ?
De toute façon, oui, il va falloir les trouver, ces fameux 10 milliards. Et ce qu'on va donner d'une main, ça va forcément être pris ailleurs de l'autre. Donc c'est compliqué. On peut estimer qu'effectivement, prendre ses responsabilités en tant que politique, c'est aussi ne pas approuver des textes que l'on trouve dangereux d'une façon ou d'une autre, dangereux budgétairement ou d'autres façons. Donc moi, ça me semble une attitude responsable de voter en son âme et conscience sur ce genre de texte.
Oui, ne pas forcément céder à un vote utile nécessairement, c'est parce que...
Mais tous les votes sont utiles à ce moment-là. Enfin, il y a toujours une bonne raison à un moment de... Donc non, évidemment que s'il y a une assemblée et qu'elle est représentative, elle doit aussi représenter les confrontations des points de vue différents et le désaccord.
Hervé Nathan, les 4 mesures, les 4 dispositifs vous semblent lisibles aux yeux des Français, de ceux qui attendent un coup de pouce ?
Bon, on sait très bien que c'est pas très lisible parce qu'il y a des tas de problèmes techniques. Donc pour la CSG, les retraités attendront le mois de juin, on leur fera une rétrocession. On ne sait pas trop si ce sera prêt pour les salaires, pour la prime d'activité, ça risque d'être juste pour le mois de janvier, on ne sait pas trop si ce sera possible, si les caisses d'allocation familiale auront le temps de mettre au point leur système informatique. Donc déjà, il y a ce flou-là. Moi, j'estime qu'il y a un problème de fond qui n'a pas été posé, qui a été occulté dans ce débat, comme dans les réponses qui ont été données par le gouvernement et la majorité, là, pour le coup, au mouvement des Gilets jaunes, c'est que, en fait, on se rend compte que les impôts servent à augmenter les salaires trop faibles du service du secteur privé. C'est exactement ce qu'on va faire. C'est-à-dire on va donner de l'argent directement par le biais des impôts à des gens qui sont payés au SMIC dans le secteur privé parce qu'ils sont trop mal payés. Voilà. Et d'une certaine manière, c'est 4 à 5 milliards de subventions aux entreprises pour mieux payer leurs salariés. Et on ne se pose pas le problème de pourquoi les salaires sont si bas. Voilà. Et le vrai problème qu'ont posé pour moi les Gilets jaunes, et c'est ça l'erreur à mon avis qu'a commis la gauche, c'est qu'il fallait oser dire oui, on peut augmenter le SMIC. L'erreur du Parti Socialiste dans cette histoire-là, c'est de ne pas avoir osé dire oui, on peut augmenter le SMIC parce que ça fait 5 ans, voire 10 ans qu'il est vraiment en retard par rapport à la croissance, que c'est pas possible de ne pas vivre de son salaire en France. Ouais. Ça, c'est une position de gauche, de dire il faut que le salaire paye de quoi vivre. Nous n'avons pas à vivre, et ça c'était au début du mouvement des Gilets jaunes, c'était présent dans les revendications, nous n'avons pas à vivre de la charité public. C'était dit sur les barrages. Il fallait s'emparer de ça et dire oui, il faut. Alors, ça me voulait dire quelques remises en cause pour les socialistes. Ça voulait dire oui, peut-être qu'il faut faire un peu de protectionnisme. Qu'il faut commencer à revoir les dogmes. Voilà. Mais ça n'a pas été fait. Et la France Insoumise, si elle s'était contentée de ça, aurait sûrement marqué des points, mais elle a dérivé sur d'autres choses.
Jérémy Pelletier, c'est une fuite en avant de la part du gouvernement. On fait tourner finalement la dette. C'est une bonne vieille recette.
Peut-être bonne vieille recette. De toute façon, là... Bon, ils étaient dans l'urgence, il fallait faire quelque chose. Voilà, ça s'appelle d'ailleurs l'urgence économique et sociale. Donc, évidemment qu'il fallait trouver un certain nombre de mesures et vraisemblablement, évidemment, financées par la dette. Je reviens à ce que dit Hervé Nathan. Je pense que ce mouvement, de toute façon, des Gilets jaunes doit amener, pas que la gauche d'ailleurs, vous dites les saucisses, mais pas uniquement, je pense tous les responsables politiques, à réaborder peut-être des questions qu'on n'a pas assez abordées au cours des dernières années. La dignité, effectivement, la place du travail aujourd'hui pour les salariés. Vous savez, il y a beaucoup de travaux, notamment qu'on a sortis à la Fondation, qui montrent qu'aujourd'hui, la France et les salariés français ont une vraie spécificité qui est le sentiment d'absence de reconnaissance, pas le sentiment d'inutilité. Vous savez, on a beaucoup parlé des bullshit jobs dans un certain nombre de pays, ce qui n'est pas du tout le cas des Français. Les Français considèrent que leur travail il est utile, par contre, ils se sentent méconnus et absents, avec une absence de reconnaissance. Et c'est sans doute l'un des sujets qu'on pourra aborder après cette séquence liée aux Gilets jaunes.
Allez, dans tous les cas, dans la deuxième partie des informés, nous irons voir comment s'est passée la journée d'Edouard Philippe qui a renoué avec le terrain en Haute-Vienne, ce sera après la météo et le rappel de l'info. À tout à l'heure.
Vous cherchez un emploi? Vous voulez en changer? Vous souhaitez créer votre entreprise? Conseils utiles, nouvelles compétences? Venez échanger avec les acteurs du monde du travail de votre région au cours d'une soirée exceptionnelle de France Info à Marseille. C'est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir avec la Provence. Jeudi 17 janvier à 19h à la Catch Business School, domaine de Lumigny à Marseille. Informations et réservations sur maisondelaradio.fr. Un événement France Info.
Avec Manpower, trouvez votre emploi en CDI. Rendez-vous sur manpower.fr. Avec Dentsu Aegis Network, acteur majeur de la communication et de la transformation digitale des entreprises. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, torréfié à l'ancienne, pour préserver le goût unique de nos cafés. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
Demain, la journée s'annonce grise et humide entre l'Aquitaine, les Charentes et Rhône-Alpes. Les pluies seront généralement intermittentes en plaine et plus régulières sur le relief, en particulier sur les contreforts ouest. Sur les Alpes, la limite pluie-neige sera voisine de 2000 mètres d'altitude et le vent sera fort. Entre l'ouest des Pyrénées, le midi toulousain et les Alpes de Haute-Provence, ainsi que sur la Corse du Sud, les nuages s'imposeront mais le temps restera sec. Les éclaircies seront belles sur le Languedoc-Roussillon, la Provence et la Haute-Corse sous un soleil voilé. En revanche, entre la Côte d'Azur et les Caps Corses, il faudra composer avec du vent fort. Sur la moitié nord, quelques éclaircies arriveront à se faufiler, mais de nombreux nuages vont défiler. Ces nuages seront parfois porteurs d'averses entre les côtes normandes et les frontières belges et du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. Côté température, il va faire doux et même très doux. Demain après-midi, les maximales afficheront 11 degrés au Havre et à Aurillac, 13 degrés pour Strasbourg, Paris, Lille, Grenoble, Agen et Brest, 14 degrés à Nantes, Nevers et Cognac et 16 degrés à Marseille et à Nice. On ira jusqu'à 18 degrés à Biarritz et à Perpignan. Le mercure atteindra même 20 degrés.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30. Toute l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Prime exceptionnelle, hors sub défiscalisée, pas de hausse de CSG pour une partie des retraités. Le Parlement donne ce soir son feu vert définitif via un vote du Sénat aux mesures d'urgence de l'exécutif en réponse à la crise des Gilets jaunes. Après 4 heures de débat seulement, loin des 13 heures de la veille à l'Assemblée, le projet de loi a donc été approuvé tout à l'heure à main levée. À la veille de leur acte 6 de leur mobilisation, le préfet du Gard interdit la manifestation des Gilets jaunes prévue demain sur l'accès à l'échangeur autoroutier de Nîmes-Ouest ainsi que sur un parking et un rond-point tout proche. Il explique que le premier jour des vacances scolaires de Noël va entraîner une forte fréquentation des axes de circulation et de l'autoroute en particulier. La route justement avec ses ralentissements dès ce soir sur certains axes pour ces vacances de fin d'année, notamment en direction des stations de sport d'hiver. Toute la France est placée en orange ce vendredi, l'Île-de-France même en rouge. Ça coince, Bonsoir Florian Cazola,
bonsoir Emmanuel.
Mobilité de France Info. Ça coince aux sorties de Paris sur la 6.
Oui Emmanuel, le trafic est très chargé ce soir de Fresnes jusqu'à Guérigny. Du monde aussi sur le périphérique intérieur depuis la porte de la Villette jusqu'à Charenton-le-Pont. Dans l'autre sens, ça bouchonne de Boulogne jusqu'à la porte de Bercy. Plus au sud, on nous signale 45 minutes de ralentissement sur l'A47 de Saint-Romain-en-Gier jusqu'à l'embranchement avec l'A7. L'A7 qui est saturée à la sortie de Lyon. Vous êtes à l'arrêt de Vernaison jusqu'à Chassur. Et puis la circulation sur la rocade bordelaise est compliquée ce soir à partir de Bruges en direction de la 10.
Merci Florian Cazola depuis le PC Mobilité de France Info. La vitesse maximale sur un tronçon représentant un tiers du périphérique de Lille passera en février de 90 à 70 km/h. Il s'agit, explique la maire Martine Aubry, de lutter contre la pollution. L'ancienne patronne du PS demande également au préfet d'interdire sur le périphérique les camions aux heures de pointe en aménageant des parkings relais à l'extérieur de la métropole. À Bordeaux, le conseil de Bordeaux Métropole vote à l'unanimité une motion réclamant à Ford le remboursement d'1 700 000 € d'aide versée par la collectivité aux constructeurs. Ford qui prévoit de fermer son usine de Blanquefort près de Bordeaux qui emploie 850 personnes et 2000 sous-traitants environ. Ce nouveau rebondissement judiciaire au Japon, où Carlos Ghosn fait l'objet d'un troisième mandat d'arrêt sur des charges supplémentaires, anéantissant du coup ses espoirs d'une libération immédiate pour les fêtes. L'aéroport londonien de Gatwick a rouvert malgré un nouveau signalement de drones aujourd'hui, ce qui a entraîné une brève suspension des vols après une première réouverture consécutive à 36 heures de paralysie en cette période de fête de fin d'année. Il est 20h33, voici les informés, la suite.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Virginie Lepetit, chef d'édition à Courrier International, Hervé Nathan, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, avec Jean-Christophe Gallien, politologue, président de JCGA Conseil, avec Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Alors, il n'est pas facile de retourner sur le terrain après le mois de conflit que le pays a traversé et qui est loin, le conflit, d'être achevé. Et pourtant, Édouard Philippe s'est livré à l'exercice aujourd'hui. Le Premier ministre s'est confronté en Haute-Vienne aux interrogations, parfois à la colère sur les mesures promises, échanges dans une coopérative de pommes. C'est à Saint-Thirier-la-Perche face à des salariés qui redoutent de ne pas recevoir la prime. Écoutez bien.
Mon époux est salarié dans le bâtiment, perçoit un salaire de 1 180 €. Moi, un salaire de 1 280 €, avec ma prime d'ancienneté incluse dedans. La prime d'activité que vous allez implorer de 100 € ne me concerne absolument pas.
Je ne veux pas le faire sur un coin de table comme ça, et je suis prudent, mais compte tenu de ce que vous m'avez dit, je pense que vous basculez dans le champ de ceux qui peuvent bénéficier de la prime. Le nombre de foyers qui vont être concernés par la prime va être accru considérablement.
Alors le Premier ministre qui a eu droit à des manifestations lors de son déplacement, Virginie Lepetit, c'est pas simple comme situation parce que finalement à chaque individu, chaque personne, chaque foyer, une situation particulière.
Ah oui, c'est pas simple. Là, on l'envoie vraiment, on l'envoie sur le terrain au casse-pipe, hein, y a pas d'autre mot. Et oui, bien sûr, à chaque foyer correspond une situation particulière. Il se doit d'être à l'écoute, il se doit de répondre, donc même quand il ne connaît vraisemblablement pas la réponse. Et oui, c'est extrêmement compliqué. Et il défend des mesures qui ont été quand même un petit peu adoptées rapidement, sur lesquelles il y a eu des cafouillages, notamment entre lui et le président de la République. Donc c'est un joli exercice sur l'accord de raid.
Vous dites le casse-pipe, vous êtes d'accord avec ça, Jean-Christophe Gallien? C'est un peu un brin casse-pipe sur les bords. Il y a eu ces manifestants qui ont dit on les aura pas, nous, les 100 € ou encore Macron démission. Il a dû évidemment faire face à ce type de situation.
Ouais, il y a une mise à l'épreuve. Faut être clair dans cette affaire. Je crois que là, il y a un moment politique particulier.
Parce que vous
voulez dire. Je crois qu'il tente de sauver sa peau de Premier ministre. Je veux dire, dans l'édifice, l'architecture aujourd'hui gouvernementale, on a pu croire à un moment donné qu'il allait être sacrifié compte tenu d'à la fois de ce qu'il a pu émettre comme réponse régulière pendant cette crise, c'est-à-dire parfois des absences, parfois des droits dans ses bottes, parfois une capacité à dire les choses, puis le cafouillage comme vous avez dit avec les deux têtes d'affiche de cet exécutif qui n'étaient pas tout à fait d'accord, qui parfois se corrigeaient. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est en train de se passer et qui se passe de manière durable, c'est-à-dire profonde plus exactement, et on a le sentiment que là, il tente encore une fois de sauver sa peau de Premier ministre, sa peau politique.
Hervé Nathan, Emmanuel Macron qui expose donc le Premier ministre et Édouard Philippe pour mieux se protéger, mise à l'épreuve, comme le dit à l'instant Jean-Christophe Gallien.
Qu'est-ce que je vais rendre hommage à Emmanuel Macron. pour le coup, c'est vrai qu'il a envoyé le Premier ministre au casse-suite, mais lui aussi, il y va, parce qu'il viendra, il répond au pétitionnaire de change.org en disant, vous avez raison, ce qui est de toute façon surréaliste, parce qu'il dit, il aurait dû répondre ça il y a un mois, ça aurait été sans doute meilleur pour le pays. Il y a un mois, il disait, vous avez raison, on va retirer les taxes sur les carburants, sans doute, il ne se serait presque rien passé en France pendant dans les trois semaines qu'on a suivi. Là, trois semaines après, il dit, en fait, j'ai oublié de vous dire que vous aviez raison. On a l'impression, d'ailleurs, qu'il critique non pas le Premier ministre, mais en fait le président de la République qui était à sa place il y a un mois seulement. C'est-à-dire qu'il est en train de dire sur change.org, il y a un million de pétitionnaires. Vous savez, le type là qui s'appelle Emmanuel Macron, il s'est complètement planté. Donc on peut pas dire qu'il envoie le Premier ministre au casse-pipe.
En tout cas, lui, il est sur le terrain digital. Hein.
C'est pas dans la rue.
C'est plus simple devant un écran. Jérémy Pelletier, sur cette parole publique qui semble aujourd'hui extrêmement fragilisée, que dites-vous?
Ce qui était frappant quand vous aviez notamment des images de parlementaires qui venaient discuter avec les Gilets jaunes, parce que très honnêtement, il faut leur rendre hommage, ça n'a pas été des moments et des week-ends très simples, très sincèrement, pour tout député d'ailleurs, je pense, et notamment pour les députés de la majorité.
Mais
ce qui était frappant, bien sûr, c'est nécessaire.
C'est leur fonction, bien sûr,
c'est absolument nécessaire, c'est leur fonction. Mais ce qui était frappant, je trouve, dans l'échange qu'ils avaient avec les Gilets jaunes, c'était que les individus qui étaient face à eux, donc les Gilets jaunes, disaient, mais je ne me sens pas représenté par vous. Qui êtes-vous? Pour moi, je n'ai pas été représenté par vous, vous êtes à Paris. Ce qui m'a frappé, c'est finalement l'impression d'une délégitimation totale, presque, des responsables politiques, pourtant élus démocratiquement. Et en fait, je pense que l'une des raisons pour laquelle une partie de la majorité est totalement troublée par ce qui se passe, c'est que je crois qu'une partie est tombée de sa chaise, pensant que en ayant obtenu un nombre important de députés après les élections législatives, ils étaient persuadés que une grande majorité de la population française avait voté pour eux, une grande majorité du pays soutenait potentiellement les réformes qu'avait annoncé Emmanuel Macron dans son programme. Or, ils s'aperçoivent que non, c'est absolument pas vrai, qu'au premier tour de l'élection présidentielle, il y avait 4 France, et les 4 France, évidemment, on est en train de les retrouver là. Les Gilets jaunes est une des 4 France qui était traduisible lors du premier tour de l'élection présidentielle, je le crois. Oui. Et donc, ce qui est frappant vraiment dans cette séquence-là, et c'est pour ça qu'ils vont faire du terrain, ils sont obligés de retrouver une partie de la légitimité qui est normalement la légitimité de leur fonction.
Alors, c'est comme une sorte de grand débat qui a démarré. Virginie Lepetit, Édouard Philippe a expliqué aujourd'hui, il a confirmé du moins que des groupes de citoyens seraient tirés au sort pour contribuer au fameux grand débat national organisé janvier, février, etc. Vous avez saisi, vous, comment les choses vont vraiment se dérouler? Il y a des groupes, des tirages au sort, ça se passe dans des mairies, dans des salles
Non, j'ai pas vraiment saisi comment ça allait se dérouler. Enfin bon, on verra. On verra. Je pense pas que ça répondra exactement à la colère qui s'est exprimée. Nous, on a publié hier un article du philosophe slovène.
Comme dites-nous, c'est Courrier International.
Pardon, Courrier International, excusez-moi. J'espère que j'ai prononcé correctement. Slavoj Žižek, qui donc s'est intéressé à cette question, qui pense que cette crise ne changera pas la politique française. Et qui pense que c'est deux incarnations qui s'opposent, l'incarnation du populisme de gauche, dit-il, à travers les Gilets jaunes, et l'incarnation même du système politique à travers Emmanuel Macron, son gouvernement. Mais ce qu'il appelle, lui, de ses voeux, c'est de continuer à demander l'impossible. Donc c'est absolument pas... Il dit qu'il faut changer absolument ce système qui ne fonctionne plus, et c'est absolument pas avec des tirages au sort, c'est en continuant à demander l'impossible. C'est bon.
Allez, on va continuer, nous, à débattre du débat. Hein, mais tout d'abord, 20h40 sur France Info, une petite pause. Le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Sans surprise, le Sénat approuve les mesures exceptionnelles censées apaiser la crise des Gilets jaunes. Projet de loi validé après 4 heures de débat au Sénat. Prime exceptionnelle, heures sup défiscalisées, pas de hausse de CSG pour une partie des retraités. Les 4 articles avaient été approuvés hier par les députés. Les Gilets jaunes qui promettent un nouveau samedi de manifestation demain, mais impossible de prévoir l'ampleur de la mobilisation. Le château de Versailles sera fermé en raison d'appels à manifester dans la ville. Moins de 4000 Gilets jaunes se sont mobilisés mobilisés aujourd'hui dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. Des observateurs civils bientôt envoyés au Yémen, c'est ce que décide le Conseil de sécurité de l'ONU, notamment pour sécuriser le port d'Odeida et superviser l'évacuation des combattants. Une trêve entre rebelles et forces pro-gouvernementales est en vigueur depuis mardi dernier. Et puis le ski, l'américaine Michaela Schifrin remporte le slalom géant de Courchevel. Sixième succès en 10 courses de Coupe du Monde. La Française Tessa Worley, elle, se hisse sur la troisième marche du podium.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Hervé Nathan, sur le tirage au sort, je cite de nouveau le Premier ministre qui a expliqué la chose suivante. L'idée, dit-il, c'est de faire en sorte que les Français, écoutez bien, qui ne sont pas forcément les plus impliqués dans la vie et le débat public, puissent donner leur avis sur le débat et sur les propositions. Ça veut dire quoi? On veut remplir des salles ou...
Je sais pas, il y a une expression en cyclisme ou en football ou en n'importe quel sport, ça s'appelle être à la ramasse. Je sais pas si vous voyez, c'est l'impression que donne le Premier ministre, il y a l'impression qu'il cherche des solutions. Parce que, bon, d'abord, la solution, en fait, elle a été soufflée par Pascal Canfin. Faut savoir, c'est Pascal Canfin qui, d'ailleurs, qui a été nommé au Haut Conseil sur le climat, qui était l'annonce qui devait mettre fin au mouvement des Gilets jaunes il y a maintenant 3 semaines. Donc, il en fait partie. Et c'était sa grande proposition, c'est de dire, effectivement, il y a une crise de la représentation, et donc on peut aussi fonctionner par tirage au sort. Il y a beaucoup de travaux, ça, je pense que je ne serai pas démenti par ceux qui connaissent mieux la question que moi. Le tirage au sort, alors il y en a qui remontent à Athènes où on tirait au sort on tirait les juges au sort. Il y a que les stratèges, il y a que les généraux grosso modo qui n'étaient pas tirés au sort dans la cité
antique. Il y a une forme d'utilité dans la démarche,
ou pas? Voilà, c'est de dire on faut chercher une forme de représentation lambda, et finalement quand on prend 100 personnes au sort, peut-être que c'est plus représentatif que des gens qui sont élus au scrutin et une nominale à 2 tours.
Jean-Christophe Gallien,
rapidement, c'est ça.
Alors, pour poursuivre sur la
réflexion... Ça signifie une vraie crise de ce qu'on est soi-même. C'est-à-dire pour un Premier ministre qui est un vieil homme, qui est déjà un homme politique, qui a déjà de la bouteille, c'est une crise intime, une faille absolument extraordinaire d'en être arrivé là.
Jean-Christophe Gallien, il ne faut pas rater ce rendez-vous du débat national, selon vous.
Là, on est dans une approximation totale. Je pense que le tirage au sort...
Les choses se font marcher.
Émis dans ce contexte, c'est-à-dire qu'on c'est pas un acte fondateur. On attend des éléments qui fabriquent autre chose dans une espèce d'agora qui existe, quoi qu'il arrive, qu'il le veuille ou non. Elle existe au sein des Gilets jaunes, elle sera peut-être plus dans la rue sur les places demain, mais elle existe de manière digitale. Donc ces conversations et ce travail est fait de manière réelle. Donc aujourd'hui, ouvrir, c'était le postulat de départ, les mairies, tous ceux qui le voulaient, à tous ceux qui voulaient venir débattre, ça me paraissait être quand même un peu plus... fédérateur, en tout cas mobilisateur plus exactement. Là, le tirage au sort, on a l'impression de revenir dans des temps qui sont pas des temps qu'on a envie de revivre, quoi. Si vous voulez, il y a le suffrage censitaire, pourquoi pas aller plus loin après derrière. Non, mais c'est une erreur, encore une fois, dans une longue série, et cette erreur-là, d'ailleurs, va produire des effets, même dans une période qui est celle de la trêve qui s'annonce.
Alors, je ne sais pas si les fonctionnaires participeront au débat. Les fonctionnaires, le corps est large, j'en conviens, mais ils sont déçus, ils sont repartis bredouilles de Bercy. Le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt, sur France Info ce matin, avait fermé la porte à une hausse du point d'indice.
Lorsque nous augmentons le point d'indice de 1%, le coût en termes de dépenses publiques, le coût global, est de 2 milliards d'euros. Or, pour un fonctionnaire qui gagne 2 000 euros par mois, cela représente une augmentation de moins de 15 euros. Et pour un fonctionnaire au SMIC, c'est une augmentation de moins de 8 euros. Donc il y a un coût collectif très important, pour un avantage individuel très faible. Nous passons par d'autres moyens. Je l'ai dit, les mesures d'urgence, que ce soit la prime d'activité, la CSG, mais aussi les heures supplémentaires
publiques. La prime d'activité, si on rentre dans le détail, on se rend compte qu'elle était touchée aujourd'hui par 8% des fonctionnaires. Elle le sera après cette réforme par 12% des fonctionnaires. Ça veut dire qu'il y en a 9 sur 10 qui ne touchent rien.
Il y avait 400 000 fonctionnaires qui touchaient la prime d'activité, et l'objectif, c'est qu'il y en ait 600 000. Et ces 600 000, non seulement la toucheront, mais connaîtront aussi l'augmentation qui a été annoncée de 100 euros par mois au niveau du SMIC.
Alors, Virginie Lepetit, si on écoute bien le ministre, Olivier Dussopt, finalement, on ne donne pas aux fonctionnaires parce que ça coûte trop cher, puis il n'y aura pas grand-chose à la sortie, c'est ce qu'il nous dit ensuite. De toute façon, il n'y a plus d'argent, voilà.
Alors, puis ce que j'aime beaucoup, c'est... Il y avait 400 000 fonctionnaires qui touchaient la prime d'activité. Et l'objectif, c'est qu'il y en ait 600 000. L'objectif, c'est pas qu'il n'y en ait plus. Parce que ça serait une bonne nouvelle. Non, l'objectif, c'est qu'il y en ait 600 000. Bon, bah, que dire? C'est assez pitoyable, en fait, Tout ça, mais, Je sais pas. c'est presque comique, oui, en fait.
Votre rire, vos commentaires, Virginie Lepetit. Jérémy Pelletier, quand on voit un petit peu le détail, forcément, les annonces sont forcément techniques, puisqu'elles touchent des catégories aussi disparates que celles des uns des autres, de ceux qui touchent le SMIC, de ceux qui sont en couple et autres. Mais franchement, tout ça est quand même globalement, totalement illisible.
Le problème, c'est qu'on a l'impression d'une approche assez parcellaire. Et c'est vrai que, en plus, ce qui a été accordé aux policiers et donc les revendications acceptées de fait et qui étaient demandées par les policiers créent un véritable, de fait, appel d'air. Et donc, vous avez les fonctionnaires qui semblent effectivement les oublier pour le moment de cette séquence. Mais on peut parler de tout ce que moi j'appelle les premières lignes de la République. Voilà, qu'il s'agisse des professeurs, qu'il s'agisse des infirmiers, qu'il s'agisse des gens qui, je crois, tiennent aujourd'hui en grande partie le pays, notamment les fonctionnaires de catégorie C, qui sont, en première loge, ce sont des fonctionnaires qui sont là au guichet et qui, pour moi, tiennent vraiment le pays. Et c'est vrai que en plus des fonctionnaires, les autres oubliés, on peut aussi parler des jeunes. Donc le problème, c'est ça, c'est que vision parcellaire, plus revendication acceptée d'une partie de la population, crée de fait des appels d'air. Alors, et donc là, vous avez les fonctionnaires, mais vous en aurez d'autres demain.
Justement, Jean-Christophe Gallien, il y a un effet domino dans cette histoire.
Voilà, non, on est face à... La crise était tellement composite, tellement profonde, on l'a dit... elle est économique et sociale, elle est sur la dignité, elle est sur la revendication d'un nouvel espace démocratique. Au milieu de tout ça, il y a tout le monde. C'est-à-dire, les gilets jaunes, ils ont des amis, ils sont dans leur famille, des fonctionnaires, des policiers, tout ça. On a bien le sentiment que c'est le pays. Jérémy parlait tout à l'heure d'un pays multifracturé. Il l'est complètement. Et c'est pas parce qu'il y a les gilets jaunes qui, à un moment, créé sur des ronds-points, sur des places, encore une fois, des agora, ou même des gens opposés pouvaient se retrouver, que la réalité n'a été effacée. La réalité, c'est cette multifracture. Et on va la voir arriver, puisque on ouvre la possibilité d'ouvrir le porte-monnaie pour certains, parce qu'il y a une pression, parce que peut-être des besoins des policiers, particulièrement des forces de l'ordre, très sollicités, avec des retards de paiement. Mais tout le monde va évidemment monter dans ce bateau, parce que on sent bien que là, il y a dans un rapport de force aujourd'hui qui a été créé, eh ben, le pouvoir, il a moins de puissance, il a moins de force.
Hervé Nathan, justement, ce que dit Jean-Christophe Gallien est assez intéressant. C'est finalement la prime à ceux qui savent exprimer les choses, on va le dire comme ça, haut et fort.
Ah bah oui, de toute façon, la première leçon du mouvement des Gilets jaunes, c'est que pour gagner, il faut frapper fort, voire il faut frapper violemment. D'accord, d'une certaine manière, pour ne pas avoir, on peut même tirer la leçon, pour ne pas avoir accepté de discuter, pour avoir méprisé les syndicats, les corps intermédiaires, etc., etc., le gouvernement s'est retrouvé face à un mouvement social brut. Voilà, comme on en a connaissait avant que les syndicats. D'ailleurs, c'est une expérience historique qu'on avait au 19e siècle, hein, quand il n'y avait pas de syndicats, c'était pas autorisé, le droit de grève n'était pas autorisé, mais quand ça explosait vraiment. Grosso modo, nous avons eu, sous la forme moderne de l'occupation des ronds-points, le même type de phénomène que ce qu'on connaissait, les grèves très sauvages, très violentes,
qu'il y avait
au 19e siècle, jusqu'au moment où on a commencé à réguler la chose. Je voudrais juste dire autre chose, c'est que le gouvernement a cru pouvoir limiter les dégâts politiques en prenant des dispositifs qui, en apparence, ne semblaient ne pas remettre en cause sa politique de long terme. Par exemple, la prime d'activité, c'était prévu qu'elle soit augmentée, donc on augmente tout d'un coup, il le fait en trois fois, etc., etc. Mais d'une certaine manière, le verrou est ouvert, c'est-à-dire que le gouvernement est prenable bien maintenant, d'une certaine manière, comme on dit au foot.
Vous dites prenable, je vois qui c'est, Jérémy Pelletier.
Non, mais je pense qu'il y a deux choses, effectivement, que montre aussi cette crise des Gilets jaunes. C'est évidemment le rôle des corps intermédiaires, le rôle des syndicats, et les syndicats eux-mêmes, d'ailleurs, se posent cette question. Les syndicats réformistes, en premier, se disent, mais finalement, en quelques week-ends, ils ont obtenu, alors, peut-être pas dans le détail, mais objectivement, ils ont obtenu des choses fortes que eux-mêmes n'obtiennent qu'à travers de longues discussions, qu'à travers un temps nécessaire, hein, long pour la démocratie et pour la négociation. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je pense que cette crise-là aussi montre le passage de notre démocratie et de nos institutions vers une démocratie un petit peu plus 2.0. Et je crois que c'est un peu ce qui s'est passé à la présidentielle avec l'émergence de mouvements et de nouveaux partis, finalement. C'est pourquoi ce sont des mouvements qui ont émergé et pas des partis politiques classiques qui ont été au cœur du jeu. Ben, c'est parce que les mouvements utilisaient les outils qui sont les outils d'avenir, à savoir le numérique. Et ben là, je pense que sur les institutions, c'est la même chose. Et l'utilisation là du numérique et qui va en être faite, d'ailleurs sur ces grands débats qui vont être faits dans tous les territoires, montre, je pense, là, le passage de notre démocratie classique vers une autre forme, je pense.
20h50 sur France Info, le dernier rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Les vols ont repris à l'aéroport londonien de Gatwick après de nouvelles perturbations. Le site a été fermé après l'apparition d'un drone aux abords des pistes. Les vols avaient déjà été suspendus pendant près de 36 heures, toujours en raison de la présence d'engins volants non identifiés. Francis Holm compte se pourvoir en cassation, c'est ce qu'indique son avocate après la condamnation en appel du tueur en série. Francis Holm a été reconnu coupable du meurtre de deux garçons de 8 ans à Montigny-lès-Metz. C'était en 1986, un crime pour lequel Patrick Dils avait passé à tort 15 ans en prison. Dans le Tarn, une médecin anesthésiste mise en examen pour meurtre, elle est soupçonnée d'avoir euthanasié une patiente octogénaire à l'hôpital de Lavaur. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. L'infirmière qui a injecté la dose mortelle, elle, est sous le statut de témoin assisté. Et puis la métropole de Bordeaux réclame le remboursement des aides publiques perçues par Ford pour son site de Blanquefort, une usine que le constructeur américain compte fermer. Les élus de Bordeaux demandent le remboursement de près de 2 millions d'euros et ils qualifient d'insulte le comportement de Ford.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, nous refermons les informés avec un retour sur cette enquête IFOP avec la fondation Jean Jaurès qui a révélé donc qu'un Français sur 10 n'a jamais entendu parler de la Shoah. Plus de 2 personnes sondées également sur 10 ne connaissent pas la période durant laquelle a été perpétré le génocide des Juifs. Avant de vous donner la parole, Jérémy Pelletier, peut-être un petit commentaire à tenir avec vous, Virginie Le Petit. Vous avez été surprise par cette enquête?
En fait, je sais pas si vous vous le rappelez, mais l'année dernière, il y avait eu une enquête un peu semblable en Allemagne et qui donnait des résultats assez cohérents avec l'enquête de la Fondation Jean Jaurès. Oui, il y a un oubli ou une non-connaissance de la Shoah et qui s'accentue au fur et à mesure que les témoins directs disparaissent, que la mémoire vive, oui, en fait, disparaît. Et malheureusement, c'est assez inquiétant, oui.
Jérémy Pelletier, d'où part l'enquête, au fond, de la multiplication d'actes antisémites ou autres?
Alors, elle part pour plusieurs raisons. Avec Yannis Roder, qui est le directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès et qui est responsable des formations mémorales de la Shoah, on était très surpris des critiques qui a été faite d'une enquête qui avait été publiée par CNN il y a quelques semaines de cela, une grande enquête qui avait été faite dans 7 pays européens qui concernait 7000 personnes. Et cette enquête-là avait révélé que vous aviez 20% des 18-24 ans en France qui n'avaient jamais entendu parler de la Shoah, qui indiquaient n'avoir jamais entendu parler de la Shoah. Cette enquête avait été critiquée car, en gros, on critiquait sa méthodologie. Il nous disait, et sans doute à juste titre, les Américains utilisent le terme Holocauste lorsqu'ils ont interrogé les Français. Or, le terme Holocauste est beaucoup plus utilisé, effectivement, aux États-Unis qu'en France. Donc, nous nous sommes dit, il serait très intéressant de voir si nous, en publiant une enquête et en réalisant une enquête qui parle des génocides, et donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne parle pas uniquement du génocide des Juifs dans l'enquête, mais on a comparé avec le génocide des Arméniens, avec le génocide au Rwanda, on aurait pu en prendre d'autres, évidemment. Donc, sauf que, donc, en testant auprès des Français avec le terme « connaissez-vous, avez-vous entendu parler du génocide des Juifs ?», on arrive exactement au même taux, à savoir 20-21% des jeunes de 18-24 ans qui disent n'avoir jamais entendu parler du génocide des Juifs, ce qui évidemment alerte. Alors, on peut prendre aussi... on peut aussi regarder cette enquête d'une autre façon. On peut se dire, vous avez quand même 90% de la population française, malgré tout, qui dit « j'ai déjà entendu parler de la Shoah et du génocide des Juifs ». Malgré tout, quand vous leur demandez de situer et de dater cette séquence sur le plan historique, là, vous tombez à 80% seulement, je dirais seulement, qui sont capables de dire que ce génocide a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je pense que cette enquête-là et ce chiffre de 20% des 18-24, quand on l'analyse en détail, doit interroger sur la transmission familiale, qui avant était de mise pour justement comprendre, savoir, acquérir un certain nombre de connaissances sur la Shoah. Aujourd'hui, vous avez uniquement l'école. Et donc, si on considère qu'il n'y a uniquement l'école et plus cette transmission familiale qui va avoir tendance à disparaître de fait, parce que, et vous l'avez dit, vous avez une disparition de fait de la mémoire vive, je crois que ça doit nous interroger même sur l'enseignement même de la Shoah sans ses survivants et donc sans l'émotion que suscitent ces survivants.
Allez, deux réactions. Jean-Christophe Gallien, on devrait être à 100% de connaissances. C'est quand même un fait historique relativement récent dans l'histoire de l'humanité.
Sont récents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accélération du temps et la difficulté d'inscrire durablement dans les mémoires, finalement, des événements aussi puissants, et là, il n'y en a pas beaucoup, évidemment, à ce niveau-là de puissance, mais on remonte à un temps qui, aujourd'hui, encore une fois, dans l'accélération, du fonctionnement aujourd'hui de nos capacités est lié à l'accumulation d'événements et la difficulté, encore une fois, de l'installer, vous l'avez dit, dans la famille, fait que ça ne m'étonne que peu. Ce qui m'inquiète moi davantage, c'est le fait qu'on a un retour qui n'est pas mesuré là, parce que c'est pas l'objet, de la réécriture d'une histoire. Et là, pour le coup, on a aujourd'hui, dans certaines parties de la population, et en France en particulier, cette dimension-là, cette contestation. Et là, c'est beaucoup plus inquiétant encore que la non-transmission.
Hervé Nathan, appauvrissement de la mémoire collective et réécriture de l'histoire.
Retour de l'antisémitisme. Je suis un peu perplexe parce que si on demandait l'appel du 18 juin aux Français, ils sauraient le situer. Ils ne mettraient pas en 1914. Par exemple, enfin, quel taux, etc. Donc, je suis toujours, voilà, il faut toujours essayer d'avoir une comparaison avec d'autres faits. Alors, il y a peut-être la réponse. Et puis, l'autre chose, c'est que, oui, évidemment, le fait que ce soit 18-25 ans qui a fait, cette catégorie-là où la mémoire s'affaiblit, enfin, la connaissance historique, j'aime pas beaucoup le mot mémoire, la connaissance historique s'affaiblit, note les difficultés de l'enseignement, parce qu'on sait aussi, et ça correspond à peu près à cette tranche d'âge-là, que c'est à ce moment-là qu'apparaît le livre Les territoires perdus de la République, qui montre qu'il y a toute une partie des enseignants qui n'arrivent plus à enseigner. Alors, on parle de l'enseignement de la Shoah, disons, à enseigner à leurs élèves cette partie-là de l'histoire.
Il faut conclure, Jérémy Pelletier, l'enseignement, c'est un peu la clé tout de même, malgré tout.
Absolument, et d'ailleurs, alors pour être très honnête, c'était aussi l'objet de cette enquête-là. Effectivement, on s'est focalisé sur le génocide des Juifs, sur la Shoah, et c'était évidemment l'objet de l'enquête. Mais nous, ce qu'on a voulu montrer, et ça fera l'objet de travaux suivants et futurs au sein de la Fondation, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on aurait pu poser même la question du 14 juillet dans l'enquête, etc. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'aujourd'hui, un savoir, une connaissance acquis à l'école peut être détricoté une fois arrivé à la maison, parce que émergence numérique, parce que émergence de savoir et de consommation culturelle souhaitée et non subie, comme c'était le cas par le passé, et donc on travaillerait encore sur ces questions-là,
Jérémy, je suis d'accord Pelletier, avec vous. J'imagine, on peut visiter, on peut découvrir l'enquête dans son entièreté sur le site de la Fondation.
Sur le site de la Fondation Jean Jaurès, l'enquête complète avec une petite note de synthèse qui va bien.
Virginie Lepetit, la une de Courrier International en deux volumes.
En deux volumes, on parlait de l'accélération du temps, le temps passe-t-il trop vite? Un numéro spécial consacré au temps. Et puis notre habituelle année en cartoon, donc l'année 2018 vue par les cartoonistes du monde entier. Et je voulais signaler aussi lundi sur notre site une interview de Yanis Varoufakis sur les gilets jaunes, Macron, le populisme.
Hervé Nathan, la une de Marianne.
La une de Marianne est consacrée à la chanson. On n'osa plus le chanter. C'est toutes ces chansons qui seraient clouées aujourd'hui au pilori pour misogynie, apologie de la prostitution. Marianne, aussi un numéro double, mais en un seul.
Merci à tous les quatre. Pour ma part, je vous dis à lundi. Je vous retrouve pour la suite des informés. Demain, ce sera au tour de mon ami Pierre Neveu. Merci, bonsoir.